We've been forced to make this decision because we're getting no other option. Nobody's listening, so we're going to shout until we're heard. We need to get more staff on the wards to enable for better patient care and maintain patient safety. And the only way we're going to do that is by raising the wage so that people actually want to do this as a job. Nursing is a fantastic career, but anybody who works here will tell you it's not something we do for pay. It's something we do because we care, but we also need to be paid to do it. The public support is absolutely fantastic, and it means the world to each and every one of us, because we do this for you, for the public, for every single person.
You know, I fully believe in the union's role in our society and the freedom for them to strike. But I also believe that that should be balanced with the right of ordinary working people to go about their lives free from significant disruption. And that's why we're going to bring forward new laws in common with countries like France, Italy, Spain and others that ensure that we have minimum levels of safety in critical areas like fire, like ambulance, so that even when strikes are going on, you know that your health will be protected. I think that's entirely reasonable, and that's what our new laws will do.
Jour de grève, qui fait grève quand ? Tribunaux. Le samedi 21 janvier, des membres du syndicat PCS, tels que les conseillers juridiques et les assesseurs, sont en grève en Angleterre et au Pays de Galles. Instituteurs. Les instituteurs feront grève en Angleterre et au Pays de Galles les 1er février, 15 et 16 mars. Le syndicat de l'éducation nationale a également annoncé des dates au niveau régional. En Écosse, 16 jours d'action auront lieu dans différentes régions à partir du 16 janvier. Ambulanciers. Nord-Ouest, Nord-Est, West Midlands, East Midlands et Pays de Galles grèvent le 23 janvier. Les syndicats GMB et Unite Workers seront également en grève les 6 février et 6 et 20 mars. Irlande. Membres du syndicat Unite seront en grève le 26 janvier et avec le syndicat GMB le 16 février. Les membres de Unite seront à nouveau en grève les 17, 23 et 24 février. West Midlands, les membres de Unite seront en grève le 17 février. East Midlands, Nord-Est et Pays de Galles, les syndicats Unite et GMB seront en grève le 20 février. Nord-Ouest, les travailleurs membres d'Unite seront en grève le 22 février. Infirmières, le syndicat Royal College of Nursing, RCN, sera en grève les 6 et 7 février en Angleterre. Chauffeurs de bus, les chauffeurs du syndicat Abellio ont décidé de 8 jours de grève en janvier, incluant les 25 et 26. Cheminots, les conducteurs de train des syndicats ASLEF et RMT seront en grève les 1er et 3 février. Personnel universitaire, le personnel de 150 universités fera grève 18 jours durant les mois de février et mars. La première date confirmée est le 1er février. Vous venez d'entendre tirer de la chaîne YouTube du Guardian une infirmière de Birmingham sur son piquet de grève, expliquer pourquoi justement elle fait grève, ce qui est en jeu et va au-delà de la crise actuelle car son métier doit vraiment être revalorisé pour attirer, recruter, ce n'est juste plus tenable pour elle. Juste après, c'était le premier ministre actuel, Rishi Sunak, qui défendait sa toute nouvelle loi, considérée par beaucoup comme une loi anti-grève, anti-strike quoi. Et puis enfin une lecture des extraits d'un article sur le site de BBC News qui récapitule ou essaye de récapituler qui fait grève quand. Alors s'il y a quelque chose de bizarre à faire une chronique sur des grèves massives au Royaume-Uni quand on est française, c'est pourtant la réalité de ces derniers mois de ce côté-ci de la Manche. La liste des secteurs mobilisés ici depuis l'été dernier n'arrête pas de s'allonger. Infirmiers et infirmières, postières et postiers, pompières et pompiers, avocates et avocats, inspectrices et inspecteurs du service public, kinésithérapeutes, ambulances, cheminots, personnel d'aéroport, conductrices et conducteurs de métro, de bus, professeurs, enseignantes et enseignants, etc., etc. C'est tellement diversifié comme mouvement qu'on trouve un peu partout sur le web des calendriers de qui fait grève, quand et où, puisque les journées d'action peuvent aussi varier entre les différents pays du Royaume-Uni. Bref, c'est très suivi et de plus en plus coordonné. Il semble même que la journée du 1er février prochain va ressembler, à s'y méprendre, à une grève générale, mais comme c'est interdit ici, on parle de journée d'action coordonnée. Certes, le pays a une grande histoire de lutte et de grève, mais quand même, il ne s'est pas mobilisé comme ça depuis plus de 40 ans et le fameux Winter of Discontent de 79. Pour les deux du fond, ça n'avait pas bien tourné rapport au retour des conservateurs au pouvoir qui a suivi et à l'arsenal législatif que Thatcher et ses successeurs ont alors mis en place pour contraindre et limiter l'action des syndicats. Et c'est donc bien ça qui est vraiment impressionnant, la hauteur de ces mobilisations, alors même que c'est de plus en plus compliqué de faire grève ici. Car pour cela, les syndicats doivent au préalable organiser un scrutin par voie postale. Oui, oui, la poste, quoi. Et obtenir des minimums de participation et au moins 50% d'accord. Faut être motivé, donc. Et il va sans doute falloir l'être encore plus, puisque les conservateurs sont en train de faire passer une loi pour le service minimum qui cache mal son intention d'interdire le droit de grève. Droit que j'ai par ailleurs entendu certains défenseurs ici qualifier de « human rights », ce que je trouvais vraiment très chic. Motivé, donc. Mais ça, les Britanniques le sont. C'est vraiment, vraiment la galère. J'ai le sentiment que tout est amplifié par rapport à ce qui se passe de votre côté de la Manche, qui est déjà bien compliqué pour beaucoup. Mais tous les chiffres ici sont plus hauts. On ne parle que de ça. La crise du cost of living. C'est comme chez vous, mais en pire. Les prix explosent, notamment l'électricité. Si je prends mon humble exemple, mon prix au mètre cube vient de tripler par rapport à mon ancien contrat et il n'est même plus possible d'obtenir des taux fixes. C'est forcément des taux variables. Et puis de l'autre côté, les salaires, eux, n'ont pas augmenté depuis une bonne paire d'années, c'est rapport à l'austérité. Du coup, le pouvoir d'achat s'effondre, littéralement, et on estime à un cinquième le nombre de Britanniques qui vivent dans la pauvreté. J'entends d'ailleurs chaque matin sur Radio 4 des témoignages terribles. Et si mon accent n'était pas aussi français, vous sauriez instantanément pourquoi on parle de « heat or eat », se chauffer ou manger, quoi. Et c'est aussi car tout le monde est impacté par ces mêmes difficultés qu'il y a autant de mouvements un peu partout. Dans ces conditions infernales, c'est normal que la contestation se réveille, d'autant que le chômage est bas, mais il est encore trop tôt pour savoir si c'est un vrai renouveau des syndicats. J'ai d'ailleurs plutôt l'impression, sans aucun doute biaisé par mes propres références médiatiques, mais j'ai l'impression que le discours sur le souffle nouveau dont les syndicats bénéficieraient est surtout traité à l'étranger. Ici comme ailleurs, ce qui est plus audible, ce sont les familles britanniques prises en otage, empêchées de travailler et de vivre par tous ces grévistes, familles que le gouvernement doit protéger à tout prix de ces mouvements qui ont des demandes déraisonnables. C'est donc des infirmières qui demandent un salaire décent alors que les caisses sont vides. On entend d'ailleurs de plus en plus que ces grèves au sein de la NHS, grève historique depuis la création de cette institution qui est carrément sacrée ici, que ces grèves donc sont dangereuses voire responsables de décès supplémentaires ces derniers jours. Oui, certaines choses sont très différentes des deux côtés de la Manche, et puis d'autres, comme le discours médiatique, sont plus similaires. On surveillera donc les prochaines statistiques officielles des taux de syndicalisation qui donnaient en 2021 21,3% de la population active syndiquée. Ça représente un peu plus de 6 millions de personnes, et c'est à comparer aux plus de 12 millions au début des années 80. La vague de privatisation qui a suivi joue bien sûr à plein dans cette chute de chiffres, et d'ailleurs les taux vont du simple au quadruple entre le secteur public syndicalisé à plus de 50% et le secteur privé qui l'est lui à tout juste 12,8%. C'était d'ailleurs la vente à la découpe de ces services publics qui rend la lecture des grèves si complexe aujourd'hui comme vous l'avez entendu, puisqu'il y a tellement de compagnies privées qui sont impliquées que c'est illisible. Bref, moins nombreux, plus contraints dans leur action, ce winter of discontent des syndicats, des travailleuses et des travailleurs est d'autant plus remarquable. Reste à savoir, mais ça va vous rappeler les questions que j'entends en ce moment sur les mobilisations de votre côté du channel, si le soutien de la population, qui est déjà en réalité à géométrie variable selon les métiers concernés, si ce soutien va continuer à suivre, et ce que va en faire le parti travailliste, qui pour l'instant, tout occupé à son recentrage vers le centre justement, n'en a pas fait grand-chose. À suivre donc.